Chères auditrices, chers auditeurs de cette émission mensuelle de la Libre Pensée, à laquelle les animateurs de Article 25 prêtent cette plage, bonjour. Sont au micro Michel Garin, Henri Huile et moi, Michel Cadouche. La campagne électorale pour l'élection de députés au Parlement de l'Union européenne a commencé. Il nous a paru utile de revenir sur l'origine de celle-ci, origine qui, bien sûr, la marque de son empreinte. C'est l'occasion de décrire ses institutions et son fonctionnement. Il est aussi intéressant de voir ce qu'il en est de la laïcité au sein de l'Union européenne, question qui préoccupe particulièrement celles et ceux qui sont attachés à la liberté de conscience. Enfin, il nous est affirmé de manière constante que la construction européenne est synonyme de progression de la paix en Europe. Ne convient-il pas de s'attarder sur cet aspect? Bon, Henri, s'il te plaît, donc parle-nous de ce cheminement de la construction européenne et de sa création. Je sais que c'est Claudette qui a préparé ton intervention.
Non, elle ne m'a rien préparé du tout. La pauvre, elle est malade. Oui, mais d'accord. Je vais essayer d'improviser quelque chose sympathiquement pour nos auditeurs. Alors, si on veut remonter un peu aux origines de l'actuelle Union européenne, il faut remonter à 1952. À cette époque-là, nous sommes en pleine guerre froide, c'est-à-dire dans le risque d'un affrontement nucléaire entre l'URSS d'un côté et les États-Unis d'Amérique de l'autre, chacun avec leurs alliés respectifs. Et donc dans cette situation, les États-Unis d'Amérique sont à l'origine d'un projet qui s'appelle le projet d'armée européenne. Et il s'agirait d'une armée européenne supranationale. Tiens, c'est curieux parce que c'est des choses dont on discute encore aujourd'hui à propos de l'affrontement Russie-Ukraine et de l'intervention possible, selon Macron, rien ne doit être écarté, tout est possible. Et le débat sur l'existence souhaitable ou non d'une armée européenne. Et donc à ce moment-là, en 1952, ce projet d'armée européenne, cette armée serait placée sous le contrôle du général commandant en chef des forces armées de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire la somme des alliés qui sont du côté des USA, de l'impérialisme américain, contre l'Union soviétique, qui a elle-même constitué une alliance militaire qui s'appelait le pacte de Varsovie. Et donc ce général américain qui commande l'OTAN et l'OTAN auquel serait rattachée cette armée européenne, ce général est désigné par le président lui-même des États-Unis. Ce qui revient à dire qu'en fait cette armée européenne serait en quelque sorte la supplétive de l'armée américaine, de l'armée des États-Unis en 1952. Et donc les pays qui annoncent leur intention de participer à cette opération, c'est la République fédérale d'Allemagne, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, la Grande-Bretagne et la France. Et donc je passe les détails, il y a tout un travail qui est fait il y a un projet de texte visant à constituer cette CED, Communauté européenne de défense, est présenté et c'est signé, c'est ratifié par les représentants de au moins quatre pays, c'est-à-dire la RFA, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, et la République française refuse. Il y a un débat à l'Assemblée nationale et par une majorité de 319 voix contre, 264 pour, ce projet d'armée européenne supranationale sous les ordres d'un général américain, ce projet est refusé. Voilà. Ensuite, la deuxième tentative, le deuxième aspect de lancement d'une Union européenne, une communauté européenne, on dit à l'époque, c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier. Ça se passe au traité de Paris, toujours en 1952. Et constatons qu'effectivement, pendant toutes ces années, cette communauté européenne du charbon et de l'acier est créé et toute leur activité consistera en fait en définitive à liquider l'industrie de l'acier et du charbon en Europe dont il ne reste aujourd'hui pratiquement plus rien. Je passe ensuite sur le traité 1957-58, le traité de Rome. Bon, en tout, il y a eu une douzaine de traités, 10 ou 12 traités. Je ne vais pas les citer tous pour gagner un peu de temps. Et l'autre aspect important, c'est la transformation de la communauté européenne en Union européenne qui se passera au traité de Maastricht en 1992. Et on peut aller rapidement, disons, en 2007, pardon, c'est le traité de Lisbonne. Alors là, il y a une histoire particulière. Ça a été le projet de constitution européenne. Et on a demandé au peuple d'adopter, par voie de référendum, selon les pays, l'adoption d'une constitution européenne. Chacun s'en souvient, c'est pas si vieux. Et il y a eu une intense mobilisation dans la population, auprès des militants politiques, syndicalistes et autres, pour le refus de cette constitution européenne qui aurait vraiment sonné un peu le glas de l'indépendance de chaque pays qui composait l'Union européenne. Et notamment en France et en Hollande, aux Pays-Bas, par voie de référendum, la population rejette cette constitution européenne et donc elle ne peut pas aboutir. Et c'est en 2007 que Nicolas Sarkozy, président de la République française à cette époque-là, décide que ce qui a été refusé par le suffrage universel, c'est-à-dire par le peuple souverain dans la République, de contourner ce vote populaire, ce vote de la population, en rédigeant un traité qui sera ratifié à Lisbonne et qui aujourd'hui continue, donc est en application, et est donc illégitime, puisque son contenu a déjà été rejeté par la population, et néanmoins qui a force de loi dans l'Union européenne. Voilà. Donc ça, c'est une rapide chronologie. Ensuite, je ne dirai pas comment fonctionnent aujourd'hui les instances de l'Union européenne, puisque c'est Michel qui va traiter cet aspect des choses. Mais je voudrais rappeler aux origines de l'Union européenne quels sont les hommes, finalement, quels sont les responsables qui ont conduit cette opération. Essentiellement, je vais donner quelques noms, leur trait commun à presque tous, c'est d'être les hommes politiques de la démocratie chrétienne, c'est-à-dire ceux qui, sur le terrain politique, représentent l'Église catholique, sa hiérarchie et le Vatican. Alors, en premier lieu, il faut citer Jean Monnet, qui est français, donc, qui est démocrate chrétien, et qui est d'une famille de marchands de cognac. Et d'ailleurs, il a largement trafiqué les alcools, pas toujours aussi nobles que le cognac, d'ailleurs parfois des alcools quelque peu jeunes et frelatés, à l'occasion de la prohibition aux États-Unis. Et il sera banquier américain, en fait. Et c'est quelqu'un dont on peut dire qu'il était à la fois homme politique de l'Église catholique et agent des Américains. Et par exemple, pour donner un bref exemple de la carrière qu'il a conduite, quand en 1943, les alliés anglo-saxons débarquent pendant la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord, Roosevelt et Churchill ne veulent pas que ça soit De Gaulle qui gouverne la France, encore moins le Parti communiste, et ils essayent de faire en sorte que ça soit le général Giraud, qui est lui-même un pétiniste. Et il sera obligé, le général Giraud, sur le territoire de l'Afrique du Nord française contrôlée par les armées alliées et la France libre et l'armée d'Afrique qu'il commande, va supprimer les dispositions de la constitution, enfin du gouvernement Pétain. Mais dans la foulée, il supprime ça et dans la foulée, il rétablit l'abrogation des décrets Crémieux. Et le décret Crémieux, c'était le décret qui permettait aux Juifs d'Afrique du Nord, d'Algérie notamment, d'avoir la nationalité française. Donc très très clairement, en 1943, en territoire libéré de l'occupation pétiniste, nazie, fasciste et tout, il va quand même essayer de ramener sur le terrain l'abrogation du décret Crémieux. C'était donc Jean Monnet était donc au service d'un antisémite notoire. Après, je vais accélérer un peu, je ne vais pas les citer tous, mais il est important de citer Robert Schuman, lui-même français, qui est lui-même un démocrate chrétien, et pour dire à quel point c'était un représentant de l'Église. Actuellement, depuis 2021, il y a un procès au sein de l'Église pour aboutir à sa, ça se passe sous la forme d'un procès, à sa béatification, qui est en quelque sorte le premier pas avant qu'on puisse le sanctifier, c'est-à-dire en faire un saint officiel de l'Église catholique. Et donc actuellement, cette instruction étant en cours, néanmoins, le pape François, l'actuel pape, l'a bombardé vénérable au sein de l'Église catholique. Donc quand on dit que c'est un catholique, c'est pas un militant catholique, c'est pas un excès de langage. Et en 1940, cet homme-là votera les pleins pouvoirs à Pétain et il se révélera tout au long de sa vie très hostile à l'école publique laïque en France, puisque c'est un Français. Et il sera même, assez brièvement d'ailleurs, ministre de Vichy en 1940. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a marqué une grande étape de sa vie politique dans la collaboration, dans le combat contre l'école publique, et qui sera lui-même aussi, comme Jean Monnet, un des pères fondateurs, en quelque sorte, de la communauté européenne, aujourd'hui Union européenne. Il y a Konrad Adenauer en Allemagne de l'Ouest, en République fédérale allemande, on disait, qui lui-même est un militant, un responsable démocrate chrétien. Ça sera le cas aussi d'Alcide de Gasperi en Italie, puisque ce sera le fondateur du parti de la démocratie chrétienne, et ça, de toute sa vie, ça a été un militant catholique, voilà. À la notable exception de Paul-Henri Spaak, qui était Premier ministre de la Belgique, qui était lui un militant du parti, un responsable du Parti socialiste, puisque tous ces gens sont des militants des partis démocrates chrétiens. On peut citer aussi John William Bayen, qui était un Hollandais, qui était banquier et administrateur de haut niveau, hein, directeur général ou président, de boîtes comme Philips, Unilever, etc. Donc vraiment le grand capital, comme on dit. Et pendant un moment de sa vie, il a été président de la Banque des règlements internationaux. Donc voilà, c'est à la fois des représentants du capital et des représentants de la hiérarchie catholique. Tous ou presque, d'ailleurs, de ces gens-là, ont obtenu le prix Charlemagne, ce qu'ils ont en commun. Le prix Charlemagne, c'est un prix qui est décerné pour les pères, justement, ou ceux qui font beaucoup pour l'Union européenne. Parmi eux, c'est les lauréats, il y a Juan Carlos de Bourbon, c'est-à-dire l'ex-roi d'Espagne, qui a été nommé, qui a été porté à la royauté, à la monarchie, par la grâce du général Franco, le boucher du peuple et de la République espagnole. Voilà la présentation assez rapide, j'espère, que je voulais faire.
Bien, est-ce que nous pourrions avoir une petite illustration musicale ?
Oui. Pour, comme illustration musicale, pour notre première illustration musicale, on a choisi le chant des survivants. Alors, le chant des survivants est un chant révolutionnaire dont le titre original allemand, donc ça, j'aurais du mal à vous, excusez-moi pour la prononciation, est Im Kampf für Volk und für Held. En gros, le combat pour le peuple et la liberté. D'après le nom allemand du tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. Il existe également un chant, une chorale, un chant choral révolutionnaire de ce nom, d'origine russe, dont on a mal à dater le départ, mais dont la musique serait d'Edelstadt et des paroles de Rosa Luxembourg. La tradition militante attribue à ce chant la mémoire d'un étudiant révolutionnaire du nom de Tchernychev, mort en prison sous la torture, ce qui tendrait à renforcer l'hypothèse d'une origine russe. Ce chant dépasse les origines de la frontière, des frontières de l'Allemagne à l'occasion de la guerre d'Espagne, durant laquelle il est popularisé par Ernst Busch, acteur et chanteur allemand engagé dans les brigades internationales qui interprète sur Radio Madrid et l'enregistre sur disque. La popularité de son interprétation lui vaut alors de s'en voir attribuer la paternité. Paroles et musique figurent souvent anonymement dans des carnets de chants militants de l'époque. On retrouve ainsi cette version allemande sur une partition datée de 1936, indiquant en espagnol qu'il s'agit d'une antique chanson de la Russie tsarite, favorite de Lénine et affublée du portrait de Maxime Gorki. La chanson, traduite en rite par Georges Machtek, est au répertoire des chœurs de l'Armée rouge. Voilà pour l'explication concernant la chanson.
Ben Michel, je vais te rendre tout de suite la parole. Henri a indiqué que tu allais nous parler de ce que sont les institutions européennes et quelles sont les relations entre celles-ci, c'est-à-dire quel est le fonctionnement de l'Union européenne. Michel,
oui.
À toi.
Oui, merci Michel. Bon, alors comment expliquer l'Union européenne ? Beaucoup en parlent de cette Union européenne, beaucoup ont des idées, certaines idées sur l'Union européenne, particulièrement, pour exemple, l'idée du Parlement européen, qui est donc, dans toutes les 7 institutions, on va le voir, qui est la seule institution dont les membres sont élus directement par les citoyens. Hein, vous le savez, c'est ce qui va se passer le 9 juin. Maintenant, comment fonctionne cette Union européenne ? Il faut savoir que dans l'Union européenne, il y a 7 institutions. Alors, parmi ces 7 institutions, il y en a 4 qui interviennent dans la plupart des décisions européennes. Alors, quand je dis qu'elles interviennent dans la plupart des décisions européennes, c'est bien qu'elles ont une influence directe sur ces institutions. Ces 4 institutions principales, je dirais, c'est la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen. Ensuite, dans ces sept institutions, il y en a 3 autres, donc, qui sont la Banque centrale européenne, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de comptes européenne. L'Union européenne, elle est également dotée de nombreux autres organes, hein, comme le comité des régions ou encore le comité économique et social européen. Alors, comment fonctionnent ces institutions ? Également appelé sommet européen, le Conseil européen regroupe au moins 4 fois par an à Bruxelles les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, bien que maintenant on est passé à 28. Mais les dirigeants y décident à l'unanimité des grandes orientations de l'Union européenne. Parmi eux, on considère souvent que c'est le couple franco-allemand qui y joue un rôle déterminant. Ce qui n'est peut-être pas toujours vrai, d'ailleurs, on le voit par ces jours-ci, puisqu'ils ne sont pas tellement en accord les uns avec les autres. Par ailleurs, lorsque les autres institutions ne parviennent pas à s'accorder sur un texte, il arrive souvent que le Conseil européen se réunisse pour le débloquer. Donc on voit bien que déjà là, c'est bien le Conseil européen, donc les différents chefs de gouvernement et d'État, qui impulsent les grandes orientations de l'Union européenne. Alors à qui il donne ces impulsions ? Il les donne à la Commission européenne. Alors la Commission européenne, elle, propose les textes de loi. Elle suit alors les recommandations du Conseil européen ainsi que son propre agenda. Composée d'un commissaire européen par État membre, elle se réunit au complet au moins une fois par semaine à Bruxelles. Entre-temps, chaque commissaire avance sur ses dossiers respectifs. Enfin, les propositions de la Commission sont, dans la plupart des cas, amendées et votées par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Avec ses 705 députés élus au suffrage universel direct, le Parlement européen représente les peuples européens. Il se réunit au moins une fois par mois en session plénière pour voter les textes. Le Conseil européen, lui. Alors le Conseil européen, lui, rassemble régulièrement les ministres des États membres à Bruxelles. Il ne doit pas être confondu avec le Conseil européen. On a bien dit qu'il y avait le Conseil de l'Union européenne et le Conseil de l'Union européenne. Bien qu'il exprime lui aussi la position des gouvernements européens, pour que la proposition de loi soit adoptée, le Parlement et le Conseil de l'Union européenne doivent s'accorder sur un texte commun. Une fois validée par l'Union européenne et après un délai pour que chaque État l'intègre dans son droit national, la loi s'applique partout en Europe. Alors, ce processus, pour savoir ce processus, il est écrit ci-dessus, est appelé en définitive une procédure législative ordinaire. Mais il existe également d'autres procédures en fonction des domaines concernés, en matière de politique étrangère ou de fiscalité, par exemple. Le Parlement européen a beaucoup moins de pouvoir que le Conseil de l'Union européenne, qui lui-même prend alors ses décisions à l'unanimité, non plus à la majorité qualifiée. Alors voilà les principales institutions et comment elles fonctionnent. Alors pour revenir juste 5 minutes là-dessus, parce qu'on ne va pas s'attarder beaucoup plus longtemps, on retient bien qu'en définitive, ce sont bien les chefs de gouvernement et d'État qui impulse les grandes orientations. Ensuite, la Commission européenne, c'est elle qui est chargée de mettre les lois en fonction d'impulsion des gouvernements. Et on l'a vu, cette Commission européenne, donc elle-même est composée en définitive par des élus, par des membres du gouvernement qui ont été désignés par leur propre gouvernement. Ce qui fait qu'on voit bien que là-dedans, le Parlement, en définitive, n'est là que pour entériner et faire appliquer les lois. Et lorsqu'il y a une loi, alors bien sûr, on peut toujours revenir avec après, parce que le Parlement peut refuser une loi ou modifier une loi. C'est bien pour ça qu'il est nécessaire quand même quelque part d'avoir des élus, puisque suivant l'orientation politique des élus du Parlement, il est évident que les textes de loi qui arrivent proposés par les différents États automatiquement seront orientés en fonction de la figure politique, je crois que de l'organigramme politique du Parlement européen, même si ce ne sont pas eux qui les votent, ces lois. Mais vous le savez, c'est grâce à ça que pour beaucoup de sujets, on arrive malgré tout à faire modifier ces lois qui sont proposées. Alors bien entendu, vous l'avez vu, je l'ai dit dans mon intervention, c'est le Parlement avec le Conseil de l'UE qui s'entendent là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut savoir, parce qu'il faut savoir également que, bien entendu, non seulement ils votent des projets de loi, mais bien ils votent également le budget. Et c'est le budget de l'Union européenne est voté avec les deux institutions, hein, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Alors voilà ce que je pourrais dire. Je ne sais pas si j'étais très clair pour vous. Mais voilà comment fonctionne, je dirais en gros, parce qu'on pourrait toujours rentrer dans le détail. Mais voilà comment fonctionnent en gros les institutions de l'Union européenne. Voilà.
Merci Michel. D'ailleurs, si je comprends bien, finalement, c'est bien pratique pour certains chefs d'État et de gouvernement de s'abriter derrière des décisions européennes qu'ils ont eux-mêmes décidées en commun avec leurs collègues autour dans ce conseil des chefs d'État et de gouvernement. Voilà, c'est une chose que je retire de ce que tu viens de dire.
Juste une petite truc qu'on pourrait compléter, hein, puisque tu viens d'en dire deux mots. Il faut savoir que ce qu'il faut retenir, c'est que vous l'avez vu, c'est que les lois et les décrets qui sont appliqués en finale par l'Union européenne doivent s'appliquer aux États partenaires de l'Union européenne. C'est ça le gros problème. C'est-à-dire qu'en gros, les États ou les gouvernements ne sont plus libres de leurs propres lois, je dirais. Ce qui est beaucoup mis en cause ces jours-ci, on l'a vu avec la grève des agriculteurs, par exemple. Voilà.
D'ailleurs, j'ai entendu plusieurs fois que 80% des lois adoptées en France sont la transposition de directives européennes. Oui. Et, bon, est-ce qu'à un moment musical nous permettra de passer à la...
Oui, tout à fait. On a prévu un petit moment musical aussi. Alors, quand même préciser pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, que comme il s'agit d'une émission qui a pour thème comment on fonctionne et quel est le but et le rôle de l'Union européenne... On a pensé qu'il était bon de donner la parole au peuple, comme on dit, et de rendre hommage à tous ceux qui, dans les différents pays, combattent pour les droits du peuple travailleur et pour la paix, pour la défense de l'existence même des populations. Et tout à l'heure, on a eu donc une chanson d'origine allemande, chantée en français. Là, maintenant, je vais vous proposer d'écouter une chanson qui s'appelle... « A las barricadas », qui est clairement une chanson espagnole, qui va être chantée en espagnol. L'enregistrement est de la qualité 1936-1937, parce que c'est une chanson qui était l'hymne de la grande confédération des anarcho-syndicalistes espagnols, très puissante dans l'Espagne à l'époque, en particulier en Catalogne et en Andalousie. Et cette chanson, « A las barricadas », a été composée, on croit savoir, par Valerio Orobón Fernández. Et la première fois qu'elle a été imprimée, c'était en novembre 1933, dans une revue qui s'appelait « Tierra y Libertad »,« La terre et la liberté ». C'est le titre même du film célèbre de Ken Loach, « Tierra y Libertad ». Et l'air de la chanson, certains le reconnaîtront, c'est l'air d'une chanson qui s'appelle « La Varsovienne », qui est une chanson de révolutionnaire polonaise qui a commencé un peu, en quelque sorte, comme une chanson patriotique en 1893. Je ne lirai pas le nom de l'auteur parce qu'il est vraiment... je vais essayer. Václav Zwiesiński. J'espère que je n'ai pas trop écorché. Qui était poète. Et ce chant est devenu un chant... les paroles ont été un peu modifiées en 1905 pendant la première révolution russe de 1905, et c'était un chant révolutionnaire russe donc qui a été fait sur la base de cette chanson, la Varsovienne, qu'on a appelée la Varsovienne de 1905. Et c'est cette musique-là qui est sur les paroles en espagnol que vous allez entendre, et je l'ai en français quelques petits aperçus, de noires tourmentes agitent les airs, de sombres nuages nous empêchent de voir, lève haut le drapeau révolutionnaire qui amènera le peuple, conduira le peuple à l'émancipation. Debout, peuple ouvrier, il faut vaincre la réaction.
Henri, bon, tout à l'heure, tu as évoqué la communauté européenne de défense. Ça me permet de te poser deux questions, enfin, de rejoindre à une autre question qui me préoccupe. C'est la question de la laïcité, parce qu'il apparaît que le statut de divers courants religieux n'est pas identique dans tous les pays de l'Union européenne. Hein, et donc, plus particulièrement, comment se présente la liberté de conscience et la laïcité au sein de celle-ci. Et puis aussi, puisque tu as parlé de la défense, je te pose cette deuxième question, qui est qu'est-ce que la paix en Europe, disons depuis la CECA, qu'on nous avait promise ?
Ah oui, alors c'est sûr que le grand argument qui a été mis en avant pour l'élaboration, l'instauration de la communauté européenne, aujourd'hui appelée Union européenne, c'était le fait que d'abord, ça permettrait de lutter contre le chômage. Bon, on voit ce qu'il en est en réalité dans l'ensemble des pays de l'Europe. Deuxièmement, que ça nous permettrait d'avoir la paix sur le continent européen. Et troisièmement, que ça nous permettrait de pouvoir être concurrentiel vis-à-vis notamment de la puissance économique américaine. Bon, on voit ce qu'il en est de toutes ces promesses. Sur la question de la paix, je le remarquais tout à l'heure, on est vraiment, on a l'impression de revenir des années en arrière, 60 ans ou 70 ans en arrière, quand on entend le discours d'Emmanuel Macron envisageant froidement, je dirais, à la télévision, la possibilité d'une guerre sur tout le continent européen. Parce que dans une guerre, il n'y a pas d'un côté un camp qui décide d'envoyer des troupes et des armes, et de l'autre côté, des autres qui jouent de l'accordéon en envoyant des confettis. Ça ne se passe pas comme ça. Quand il y a une guerre, tout le monde se bat. Et comme j'aime bien le dire, la guerre, je reprends la formule, hein, la guerre, c'est des gens qui se massacrent pour le plus grand profit, de gens qui, eux, se connaissent très bien, mais qui ne se battent pas, qui ne se massacrent pas. Et on peut dire autrement que dans les guerres, c'est toujours les mêmes qui se font tuer. Les riches évitant soigneusement d'être en première ligne et évitant très, très soigneusement que leurs propres enfants s'y trouvent. C'est toujours les travailleurs, les paysans, les ouvriers, les chômeurs. Et c'est toujours l'exemple de Gaza aujourd'hui est terrifiant sous cette forme-là. On voit que c'est la population civile qui se fait massacrer à coups de bombes, d'obus et de missiles. Et n'en doutons pas, l'extension de la guerre entre la Russie et l'Ukraine à l'ensemble du continent européen produirait exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire les ruines, les souffrances, la misère et la mort. Et on peut être que stupéfait et terrifié quand on voit un type comme Macron dire tout uniment comme ça que tout est possible, tout est ouvert, qu'il faut écarter aucune hypothèse. La guerre, mince d'hypothèses. Et bien sûr, tout ça, c'est au nom de la défense des valeurs européennes, etc. Et on est obligé de constater que c'est des défenses même pas à deux vitesses, mais qui vont dans deux directions. Parce qu'il n'y a pas de mots assez durs pour dénoncer les crimes commis par Poutine et ses généraux et tout ça. Mais que par contre, c'est blackout total sur Netanyahou et le massacre de la population palestinienne par l'armée israélienne. Et nous sommes de ceux qui pensons qu'il ne faut pas chercher à équilibrer une balance des morts en disant il y en a plus ici, il y en a moins là-bas, qui c'est qui a commencé. Tout ça, c'est des histoires de cours de récréation que les peuples, nous payons au prix du sang, au prix de la souffrance. Et donc voilà, ce petit préambule étant fait, on voit que en réalité, l'Union européenne, une de ses premières bases, ça a été un de ses premiers piliers qu'ils ont tenté de constituer, c'était la communauté européenne de défense. Je rappelle, une armée européenne supranationale, avec des contingents venant de 4, 5, 6 pays ou plus, sous la houlette d'un général américain directement nommé par le président des États-Unis. Si j'avais pas peur de l'anachronisme, c'était une armée de harkis européens au service des États-Unis. Donc voilà. Et aujourd'hui, on voit que, comme je l'ai dit, qu'on a l'impression d'être revenu au premier jour de ça, au premier jour de la guerre froide. Et alors, bien sûr, Macron, son discours a été rejeté par la population française à largement plus de 80%. Les sondages qui ont suivi le jour même, le lendemain, bien sûr, la population ne veut pas d'une guerre, ne veut pas aller tuer des Russes, ni pas plus que d'aller tuer des Ukrainiens ou n'importe qui. Les gens ne veulent pas tuer des gens, ils ne veulent pas être tués par des gens. Et en même temps, il a été isolé, comme on dit, dans le concert des chefs d'État européens. Mais ne nous faisons pas trop d'illusions. Hein. Toutes les mesures que prend ce gouvernement et les autres gouvernements européens, c'est passer d'une économie d'armement à une économie de surarmement qui est à marche forcée, à une vitesse folle, qui va vers l'économie de guerre. Et les profits, tout ça, c'est pour les profits des marchands de canons. Quoi. Voilà ce que j'ai à dire. Et ça, c'est l'actualité. C'est l'histoire qui rejoint l'actualité et l'actualité qui rejoint l'histoire. Sur la question de la laïcité, en fait, je vais pas, on n'a pas le temps, puis ce sera une autre discussion, de voir quelle est la situation de la laïcité dans toute une série de pays. Quelle est-elle en France? On pourrait dire quelle est-elle en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Belgique, en Slovénie, en Pologne, bon, à Malte. Mais disons, du point de vue de ce qu'est l'Union européenne, de la nature de l'Union européenne, il y a d'abord un premier niveau qui est un niveau qui est visible par tout le monde. Il suffit d'être un observateur de bonne foi. Si on prend, par exemple, le drapeau européen, c'est un drapeau sur fond bleu, pâle, bleu ciel, avec 12 étoiles. C'est le drapeau de la Vierge Marie, tel que partout il est figuré, tel que partout l'Église catholique l'expose. Voilà, ça, il suffit de regarder. Et cette histoire de 12 étoiles, au début, ils ont fait ça quand il y a eu 12 États. Pour entretenir, tu vois. Il y avait 12 États, on a mis 12 étoiles. Mais là, maintenant, il y a 26 États. À un moment, il y en a eu 27 avant que nos amis britanniques quittent le navire. Et il y avait toujours 12 étoiles. Donc, ce n'est pas une histoire d'État. C'est une histoire de symbole. Et c'est le symbole religieux de la Vierge Marie, propulsé par l'Église. D'ailleurs, celui qui a fait ce drapeau l'a dit lui-même. Dans plusieurs interviews, il a dit lui-même, j'ai pris pour modèle le drapeau marial, le drapeau de la Vierge Marie. Alors ça, c'est le premier point. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder. Voilà. Le deuxième point qui me paraît important, toujours symboliquement, mais les symboles déterminent beaucoup de choses et sont importants, si on prend l'hymne européen, c'est l'ode à la joie. Alors c'est une version de la partition de Beethoven, un grand musicien, ça c'est une affaire entendue, adaptée par le chef d'orchestre, cette version-là, Herbert von Karajan, qui est lui-même un ancien militant convaincu du parti nazi, dans la droite ligne du régime nazi, qui le fit jouer pour la première fois, l'ode à la joie, en hommage à l'Europe, aux Jeux olympiques d'Hitler à Berlin en 1936. Ça, c'est, on se branche sur Internet, on cherche et on trouve ça. Il suffit de le faire. C'est des choses qui sont relativement indéniables et indiscutables. Ensuite, c'est un secret pour personne qui a regardé un peu les textes, que tous les textes européens, y compris c'était dans le projet de constitution européenne qui a été rejeté par les peuples hollandais et français au suffrage universel, c'est la question des racines chrétiennes de l'Europe. Alors, il y a eu une traduction, je me souviens, c'était à l'époque Jospin qui était Premier ministre, ça a tellement fait de barouf cette histoire des racines chrétiennes de l'Europe que c'est dans toutes les versions, dans toutes les langues, sauf dans la langue française, le traité, il y a marqué les racines spirituelles. Parce que la France, par rapport à la loi de 1905, la séparation des cultes et de l'État, ça coinçait. Voilà. Donc c'était une petite hypocrisie supplémentaire. Mais tout le monde sait que sans arrêt, dès qu'il y a un problème, on te jette à la figure les racines chrétiennes de l'Europe, etc. Et comme on dit, si les racines chrétiennes, si les racines, ça existe pour un peuple, pour une culture, il y en a bien d'autres. Il y a les racines celtes, les racines germaniques, les racines nordiques, les racines surtout grecques et latines, tout de même. Tout de même, les Grecs et les Latins. Moi, je voudrais juste signaler un truc. Si même cette chose des racines chrétiennes était vraie, moi, je pense que ce n'est pas vrai, mais même si ça n'est qu'une influence parmi d'autres, religieuse parmi d'autres, que si ces choses-là étaient vraies, nous ne sommes pas des arbres. Hein. On n'est pas attaché à l'endroit où on aurait poussé comme des glands, si j'ose dire. Quel est l'homme qui voudrait passer sa vie dans son berceau ? Tout le mouvement de l'humanité, c'est précisément de s'émanciper des dogmes, des croyances infondées, etc., etc. C'est de découvrir, par les vertus de la science, de l'étude, de la technique, tout ça, découvrir ce qu'il en est de la réalité du monde, la réalité de la vie, la réalité de l'univers. Ensuite, sur un point qui est important, mais qui est à un autre niveau, qui est tout aussi important, mais à un autre niveau, moins visible peut-être, c'est, tout le monde le sait maintenant, il y a une supériorité du droit de l'Union européenne sur les droits de chaque pays. Mon ami Michel Cadouche rappelait il y a quelques minutes que, en fait, l'essentiel, 85%, c'est un rapport du Sénat qui date d'il y a une bonne quinzaine d'années, donc depuis la situation a dû empirer encore, mais qui disait que 85% du temps de travail des sénateurs, du temps de travail législatif des sénateurs, consistait à transposer des lois et des règles européennes dans le droit français. C'est d'ailleurs tout le problème du mouvement actuel des agriculteurs. C'est au niveau de l'Europe, on négocie directement des accords qui après, comme les lois, et c'est écrit dans les textes et dans les traités, les décisions européennes ont valeur supérieure. Les traités internationaux, c'est écrit même dans la Constitution française, les traités internationaux ont une valeur supérieure aux lois françaises. Et c'est tout le problème des agriculteurs qui disent « Nous, les lois françaises nous contraignent à toute une série de choses qui sont parfois de très bonnes choses parce que ça permet de ne pas empoisonner la population qui consomme les produits agricoles. Mais on interdit de cultiver en France avec tel et tel produit, mais qu'on importe à millions, voire à milliards de tonnes venant de n'importe quel pays du monde parce que ça a été négocié au niveau de l'Union européenne. » Voilà. Donc c'est une démonstration, mais il y en a plein d'autres. Et c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Alors je vais essayer de le faire de manière très claire. C'est que l'Union européenne est fondée sur le fait que les États, les différents États, la France, que ce soit des républiques ou des monarchies, ne changent rien, se sont dessaisis d'un certain nombre de prérogatives et de prérogatives fondamentales. C'est pas rien. La monnaie, le pouvoir législatif, etc., etc., on nous dit, même dans une certaine mesure, les choses policières, les choses de justice, les choses de défense, on nous dit tout ça est transféré à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une situation où les États, les parlements des États, les gouvernements des États sont subordonnés, sont subsidiaires par rapport aux instances européennes. Ça, c'est le fonctionnement même de la doctrine sociale de l'Église. L'Église catholique elle-même est fondée sur ce principe. Vous savez, en matière de religion, c'est le pape qui est infaillible et qui décide. Et ensuite, dans chaque circonscription, j'allais dire dans chaque évêché, d'un synode à un concile, dans chaque évêché, c'est comment on va transposer cela, comment on va appliquer cela. Et en quelque sorte, on peut dire, si je prends pour conclure cette histoire, un des principes où la subsidiarité fait des ravages énormes, c'est la fameuse histoire des critères de convergence budgétaire à 3%. Alors, pourquoi ça doit être 3% de déficit par rapport au PIB, en valeur, par rapport au PIB ben alors, pourquoi 3, pourquoi pas 2, pourquoi pas 4, pourquoi pas 6, pourquoi pas 0, pourquoi pas 12? Ça a été fixé 3% et c'est quelque chose qui s'impose, et chose extraordinaire, l'Union européenne qui vit, parce qu'elle est financée sur le budget des différents États, se dit « je peux vous mettre à l'amende si vous faites moins bien que 3% ». C'est le cas du gouvernement actuellement de Macron et de Bruno Le Maire, qui sont, nous avait-on dit, des stars de l'économie et qui sont en train de mener le pays au désastre économique et financier. L'Union européenne pourrait faire payer des amendes à la France parce qu'elle ne respecterait pas les termes du traité. Voilà à quel point on est subordonné, à quel point c'est... Et d'une certaine façon... Ce qu'ils n'ont pas pu faire avec la communauté européenne de défense, c'est-à-dire un général américain qui commandait une armée européenne, qui donc n'aurait plus dépendu d'aucun pays, juste fournir la chair à canon, ils l'ont réussi au point de vue économique et financier. Il y a la Commission européenne, qui est un général qui dicte comment les économies de chaque pays, comment les budgets de chaque État doivent fonctionner. Voilà. Je m'arrête là. Il y aurait des millions de choses à dire, mais... Dans le cadre de cette émission, je m'arrête là.
OK. Bon, Michel, ben, si tu peux nous passer...
Une chanson, voilà. Oui. Alors, la chanson que je vais passer, maintenant, tout le monde la connaît. Hein, elle est, je dirais, mondialement connue. Cette chanson, c'est Bella Ciao. Alors, Bella Ciao, bien sûr, elle est réapparue dernièrement. Hein. Je dirais qu'aujourd'hui, elle a été connue, je dirais, presque mondialement. C'est grâce surtout à une série télévisée qui l'a remis en route, je dirais. Cette série, c'était La Casa del Papel, qui était sortie en 2017. Et maintenant, on entend cette chanson un peu partout. Alors, Bella Ciao, c'est un chant de révolte italien. Révolutionnaire qui, à l'origine, cette chanson célèbre l'engagement dans le combat mené par les partisans et résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, opposés aux troupes allemandes, alliées de la République sociale italienne, fasciste bien entendu, dans le cadre de la guerre civile italienne. Les paroles ont été écrites en fin 1944 sur une musique d'une chanson populaire que chantaient au début du XXe siècle les mondines, les saisonnières, qui désherbaient les rizières de la plaine du Pau et repiquaient le riz. Également, on dit que c'était les lavandières également qui ont chanté cette chanson en appliquant leur misère, leur propre misère, hein, pour dénoncer leurs conditions de travail. Et ce chant, tout compte fait, est devenu un hymne à la résistance dans le monde entier. Je vous rappelle que lors d'une précédente émission, j'ai déjà passé cette chanson en persan. C'est-à-dire que cette chanson, on l'a trouvée surtout quand il y a eu le problème de la femme qui a été lapidée en Iran. Cette jeune femme qui a repris ce chant et qui a osé défier le gouvernement iranien. Et depuis, elle a été reprise dans beaucoup de pays. Dès qu'on a un problème révolutionnaire, enfin, je dirais pas un problème, parce que c'est pas un problème, la révolution. La révolution, c'est naturel, je dirais, surtout dans les temps qui courent. Mais dans beaucoup d'endroits, cette chanson est reprise en différentes langues. Alors moi, j'ai choisi pour le passé, en définitive, elle est interprétée, cette chanson, par Maître Gims, par Vitara, Dadu et Slimane. Pourquoi j'ai choisi cette chanson ? Parce qu'elle est chantée dans différentes langues. Voilà, et ben, il fallait bien en choisir une, tout compte fait. Voilà.
Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invaso.
Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. J'ai beau chanter, mais j'attends toujours que tu reviennes au monde.
continue sans toi, va m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oui je l'ai fait pour toi. T'en prie pardonne-moi, eh, à contre-cœur. Oh bella ciao.
T'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix.
J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure. L'âme qui pleure, mais le cœur dur.
La 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 la. La 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire.
La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La 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 la, la 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 la.
Merci. Sur l'Union européenne, le numéro 2 mars de La Raison a fait un dossier. Je voulais signaler aussi que notre ami Michel Lebiton a écrit un livre sur la commune de Marseille. Vous pouvez vous procurer encore autre chose auprès d'un adhérent de la Libre-Pensée, soit à la librairie de la Libre-Pensée au 10-12 rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris 5e. Le livre « Judaïcité, laïcité et libre-pensée », prise de 16 euros. Et en note de lecture, je voudrais attirer votre attention sur le numéro 344 de la revue de la libre-pensée, qui s'appelle « L'idée libre », qui vient de paraître. Ce numéro est consacré à un dossier d'une grande richesse, comme toujours dans cette revue, sur les relations entre science, politique et religion. Jugez vous-même. Les auteurs des articles sont Abdelou Ahad Rigout, Evnegi Kocha, Maria Montello, Benoît Schneckenburger, Charles Suzanne, Alain Blanchard, Pierre-Yves Modicom, Christophe Biteau, Pierre Guéguen et Jean-Sébastien Pierre, président de la Libre-Pensée. Vous regarderez quels sont leurs titres universitaires. Ce dossier commence par une explication sur la manière dont Averroès exprime sa vision de la sécularisation de la science par une évolution de la métaphysique, qui est une des composantes de la philosophie. Ceci est prolongé par un deuxième article où est décrit le parcours d'Averroès. Puis est abordé comment Giordano Bruno s'est opposé aux pouvoirs politiques et religieux. S'en suivent les démêlés de Spinoza avec le rabbinat de sa ville, Amsterdam, et les autorités, avec sa réflexion sur le pouvoir étatique. Bien sûr, il n'est pas manqué Darwin et l'opposition évolution-créationnisme. Est abordée la question de théories pseudo-scientifiques et des libertés académiques à travers l'œuvre des frères Bogdanov sous l'angle science et justice. Ensuite, vous trouverez une analyse d'un livre intitulé « Dieu, la science et les preuves ». Et c'est avec Teilhard de Chardin que l'Église catholique tente d'instaurer une téléologie de l'évolution. Téléologie, vous regarderez ce que ça veut dire. Pour finir, Jean-Sébastien Pierre traite de l'actualité du concordisme qui cherche un dialogue entre science et religion. Voilà. Ce numéro, de plus, dans la partie magazine, traite de Pascal Paoli et de la Constitution qu'il a écrite pour la Corse en 1855. Bien, je dis merci à Henri et Michel. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de la Fédération des Rhône, pardon, excusez-moi, la Fédération des Bouches-du-Rhône de la Libre-Pensée, www.lp-13.org, après où nous écouter, bien entendu, en direct, si vous pouvez. Merci encore à Radio Galère, à Daniel et Lucien d'Article 25. Au revoir et au mois prochain, le premier mercredi, comme habituellement, c'est-à-dire le 1er mai.